Philippe Delhomme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association Vivre et Agir en Maurienne.
C'est exact.
Voilà, alors je vais peut-être vous demander dans un premier temps de nous présenter cette association, quand est-ce qu'elle est née et puis peut-être son intention et objectif.
Alors c'est une association assez ancienne en Maurienne puisqu'elle a à peu près 40 ans. Elle est née de la fusion de deux associations environnementales qui s'appellent Vivre en Maurienne et puis Réagir, d'où le terme de Vivre et Agir en Maurienne. Notre objectif, c'est vraiment la défense des biens communs que sont l'eau, l'air et la terre dans cette vallée. Mais au-delà, évidemment, on a aussi une dimension, on va dire, beaucoup plus large, puisqu'on s'occupe évidemment d'écologie. Je tiens véritablement à ce terme d'écologie, parce que je pense qu'il est beaucoup plus intéressant que le terme d'environnement, parce que ça veut dire que ça intègre véritablement l'humain à l'intérieur de toutes les relations qui existent entre tous les êtres vivants. Et nous défendons évidemment spécialement cette notion d'écologie, parce que avec le projet du Lyon-Turin, évidemment, on met à mal véritablement les biens communs que sont l'eau, l'air et la terre.
Alors, on va l'évoquer plus précisément ensemble. Vous parlez de ce territoire qu'est la Maurienne. On parle bien sûr de ce projet ferroroutage entre Lyon-Turin, cette ligne Lyon-Turin, dont on parle depuis de longues années maintenant, avec un projet et un chantier, hein, je dirais, déjà engagé. Et vous faites partie, aux côtés d'autres organisations, je les cite, Soulèvement de la Terre, Notav, Sudrail, Stop Lyon-Turin, la Confédération Paysanne, eh bien, une mobilisation d'opposition à ce projet Lyon-Turin, mobilisation prévue les 17 et 18 juin prochains. On en reparlera peut-être plus précisément aussi en termes de programmation. Simplement peut-être nous faire rappel de ce projet Lyon-Turin dont on parle depuis de longues années maintenant.
Alors c'est un projet en fait qui date de 1991, donc c'est un très vieux projet de plus de 30 ans qui veut essayer de relier Lyon-Saint-Exupéry, non pas Lyon-Pardieu, hein. C'est Lyon-Saint-Exupéry, donc l'aéroport, à Turin, par une ligne nouvelle TGV de 270 km. Pour construire cette ligne nouvelle, il faut faire un tunnel de base qui fait 2 fois 57 km, qui est en fait le cœur du projet. Et puis de chaque côté, côté italien et côté français, il y a ce qu'on appelle des lignes d'accès. Et pour les lignes d'accès français, en fait, il y a à nouveau la construction de 5 autres tunnels nécessaires. Donc la totalité de cette ligne nouvelle à créer coûterait la bagatelle de quand même 30 milliards d'euros. Il est évident que nous jugeons inutile cette ligne nouvelle parce qu'il existe déjà une ligne qui fait tout à fait un bon office de transport à la fois de voyageurs et de marchandises. Et simplement, c'est que cette ligne existante, malheureusement, est sous-utilisée. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que si on n'utilise déjà pas assez et suffisamment une ligne existante, pourquoi est-ce qu'il serait nécessaire de faire une ligne nouvelle ?
Alors justement, c'est bien ce qui fait débat, et puis ce projet ne fait pas l'unanimité, à la fois dans finalement son projet en tant que tel, voire même son opposition. Ceux qui sont favorables notamment rappellent que 44 millions de tonnes de marchandises sont échangées chaque année entre la France et l'Italie, dont 92% par la route et seulement 8% par le rail, et bien la plupart ou majorité des personnes et dont élus notamment favorables rappellent qu'un nouveau tunnel aurait une capacité de 344 trains par jour contre 54 dans le tunnel du Mont-Cenis par exemple, soit 40 millions de tonnes par an et 5 millions de voyageurs. Et ils rappellent souvent que cette vallée alpine est engorgée et donc eh bien ce fut le cas encore récemment, hein, on a vu des élus se mobiliser en faveur de ce Lyon-Turin, ce fut le cas récemment via notamment, en ce qui nous concerne, une invitation à une conférence de presse des groupes socialistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont allés en visite sur place et sur site, en présence notamment du maire de Fourneau, commune voisine de Modane, qui est par ailleurs conseiller régional, François Chemin pour le citer, et d'autres conseillers régionaux et élus locaux, et qui ont rappelé l'urgence de remettre la France sur les rails et de avancer finalement sur cette ligne ferroviaire Lyon-Turin. Et puis ce fut le cas encore récemment par des maires de l'agglomération lyonnaise qui ont lancé un appel pour défendre ce projet. 42 maires sur 59 de la métropole lyonnaise ont lancé cet appel en faveur de ce projet. Qu'est-ce que cela vous inspire en tout cas, et quelle réaction peut-être à cet appel et puis ces positions plutôt favorables quant à ce projet?
Alors moi je suis très ému par cet appel de politiques qui en fait sont depuis 20 à 30 ans déjà en place, et je ne comprends pas très bien l'urgence, parce que d'après eux, donc s'il y a urgence, alors pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas déjà la ligne existante? Si véritablement il y a une urgence face aux défis climatiques pour l'amélioration de la qualité de l'air par exemple, mais également pour le développement du fret ferroviaire, pourquoi est-ce qu'on n'utilise déjà pas l'existant avant même de construire une ligne nouvelle? Et moi, je suis vraiment étonné qu'on soit prêt à dépenser 30 milliards d'euros pour une ligne nouvelle qui ne pourrait, en tout état de cause, n'entrer qu'en application que dans 20 à 30 ans, alors que si on dépensait quelques centaines de millions d'euros, eh bien, tout de suite, on aurait une ligne existante vraiment ultra performante. Donc, je comprends pas très bien, en fait, pourquoi est-ce que ces élus se mobilisent pour cette ligne nouvelle, alors que leurs concitoyens, qu'ils soi-disant défendent, pourraient bénéficier tout de suite d'une amélioration importante de la qualité de l'air. Et puis, j'ajouterais que les travaux nécessaires, peut-être, pour améliorer ou plutôt optimiser la ligne existante, ne nécessiteraient pas, en fait, la destruction des paysages, ne nécessite pas le fait de raser des forêts, de d'éventrer des prairies, de limiter en fait véritablement les quantités d'eau que désormais les populations devraient être privées. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement pour moi un enjeu et politique et écologique majeur sur ce projet. Et encore une fois, tout de suite, on pourrait améliorer la qualité de l'air en mettant les marchandises sur le rail, tout de suite, et non pas dans 20 à 30 ans. Et puis, ça éviterait, encore une fois, de dépenser des sommes d'argent public énormes.
Oui, des sommes, vous parlez de 30 milliards d'euros. Ça, c'est ce qu'il en coûtait en termes de prévision, mais il me semble que le coût serait largement au-dessus pour finaliser, finalement, et que le projet aboutisse.
Alors, je vous donne un exemple. Les 30 milliards, c'est la Cour des comptes française qui a donné ce chiffre. Simplement, le promoteur, Stelt, tunnel Auralpin Lyon-Turin, dit aujourd'hui qu'il ne s'occupe que du tunnel de base. Il dit aujourd'hui encore que le tunnel de base coûterait 8,6 milliards d'euros. Ce qu'ils oublient à chaque fois de dire, c'est qu'il y a une petite astérisque avec les 8,6 milliards et valeur 2012. 8,6 milliards, valeur 2012. Nous sommes en 2023. Si ce projet avait vraiment lieu, il ne pourrait pas avoir lieu avant 2035, entre 2035 et 2040. Vous comprenez tout de suite qu'en 2035-2040, ça ne sera pas 8,6 milliards, mais bien le double. Donc ça veut dire que ce projet est largement surcoté. Et d'ailleurs, la Cour des comptes européenne que nous avons rencontrée en 2020 avait déjà pointé du doigt le fait que les coûts de ce projet étaient déjà prohibitifs et n'avaient cessé d'augmenter.
Oui, alors là, il y a des positions partagées. Vous parlez du Conseil européen, mais il me semble aussi que depuis ce projet d'il y a quelques années, finalement, l'État français lui-même semble avoir changé d'avis, puisqu'il y a eu des rapports récemment, 2018-2023, avec le Conseil d'orientation des infrastructures, qui a précisément recommandé l'usage de la ligne existante.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, les premiers opposants à ce projet n'ont pas été forcément les populations, parce que les populations voyaient ce projet comme véritablement dans les années, au début des années 2000, par exemple, il y a 20 ans, ils voyaient vraiment ce projet comme quelque chose qui permettrait le basculement, en fait, des marchandises vers le rail. Mais le Conseil général des ponts et chaussées, le Trésor public, la Cour des comptes, en fait, tout de suite, ont pointé du doigt le problème, évidemment, majeur de ce projet, c'était le coût. Et certainement, le coût-bénéfice n'était pas valable. La preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, même TELT avoue qu'il faudra un certain nombre de décennies pour que ce projet soit d'abord valable d'un point de vue économique, et certainement qu'il ne le sera jamais, et aussi d'un point de vue du bilan carbone. Parce que pour construire un tel projet, il faut déjà dépenser énormément de CO2 avant même de pouvoir en récupérer. Et ça, la Cour des comptes européenne l'avait aussi pointé. Donc nous sommes véritablement face à un projet qui est en fait du siècle passé, et qu'il faudrait absolument éviter pour permettre justement l'amélioration immédiate de la qualité de vie des habitants de la vallée.
Et oui, c'est cette vallée, en effet, que l'on dit donc engorgée. Or, ce ne semble pas véritablement le cas finalement aujourd'hui au regard des observations et constats qui ont été établis.
Alors non, c'est vrai que la vallée n'est nullement engorgée, mais je pointerai également du doigt la schizophrénie et l'incohérence de l'État et de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui sont élus. Car dans le même temps, ils ont doublé les capacités du tunnel routier du Fréjus. Donc on ne comprend pas très bien comment est-ce qu'on peut améliorer le fret si dans un même temps, on favorise encore le fret routier. Or, ces mêmes élus qui promeuvent le Lyon-Turin, aujourd'hui, ils promeuvent le Lyon-Turin, mais pendant les 20 dernières années, ils n'ont cessé, en fait, de mettre les marchandises sur la route. Donc, il y a quelque chose d'assez incohérent, alors que, encore une fois, il y a une ligne existante qui serait tout à fait en capacité, et c'est même le président de SNCF qui le redit encore, et, comme vous l'avez très bien dit, le Conseil d'orientation des infrastructures, et en 2018 et en 2023, qui disent en fait qu'il faut utiliser les lignes existantes.
Alors quand vous parlez de lignes existantes, précisez-nous de quoi il s'agit exactement, parce que la ligne Lyon-Turin n'existe pas pour l'heure en tant que telle. Quelle est cette ligne existante et quel en serait peut-être l'objectif pour finalement tenter de trouver une alternative? C'est de réaméliorer la ligne existante, ça demande aussi de l'investissement et du réaménagement. Enfin, qu'est-ce qu'il en est exactement?
Alors, il existe déjà à Lyon-Turin. C'est tout à fait possible d'aller de Lyon à Turin à part le train. Il n'y a pas de souci. La ligne existante existe. Elle a été entièrement rénovée et mise au gabarit européen entre 2007 et 2012. Donc, en fait, cette ligne existante date de 2012. Elle est tout à fait capable de pouvoir recevoir un certain nombre de trains de marchandises, etc. Donc, les promoteurs, en fait, essaye de faire croire que cette ligne est obsolète, qu'elle ne peut pas résoudre le problème du fret en France. Moi, je rappelle juste une chose quand même, c'est que à peu près 9% du fret en France est transite par le rail. Mais avant de faire un tunnel, une ligne nouvelle dans les Alpes, peut-être qu'on pourrait faire du fret déjà en plaine, parce que je crois que c'est quand même là qu'il faudrait peut-être développer d'abord le fret avant de le faire en montagne. Et utilisons encore une fois, la ligne qui existe déjà, qui permettrait tout à fait, et dès maintenant, en fait, de faire transiter beaucoup plus de marchandises par le rail plutôt que par la route.
C'est-à-dire qu'il serait possible de basculer, en effet, les marchandises sur cette ligne existante?
Bien sûr, puisque je vous donne une indication. Au début des années 2000, ou même en 1980, sur cette ligne existante, passaient à peu près entre 120 et 150 trains sur la ligne existante. Aujourd'hui, il en passe 30. Donc, on ne peut pas dire qu'elle soit saturée. Et ce n'est pas un problème de ligne, en fait. C'est un problème de service et de volonté politique. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne met pas en place véritablement des trains, si on ne met pas en place une politique véritablement de formation de conducteurs de trains, si on ne met pas en place véritablement une volonté politique qui amène la performance de ces lignes ferroviaires, alors c'est sûr qu'on ne développera pas le fret ferroviaire. Il faut absolument montrer que le fret ferroviaire, c'est un bénéfice à la fois pour les finances, parce que ça coûte moins cher que la route, Et puis surtout, c'est un bénéfice écologique, parce que évidemment, les coûts écologiques, le bilan carbone est bien moindre que la route.
Oui, ils trichent, ils mentent, et en plus, ce qui est scandaleux, c'est qu'on a eu Bouygues vous nomme un président pour défendre les partenariats publics-privés dans les infrastructures de transport, qui est lui-même nommé président de Lyon-Turin Ferroviaire et de TELT, et qui va signer les contrats pour Bouygues, etc., etc.
Comment pouvez-vous être impartial, Hubert Duménil ?
Évidemment, je m'en remets à l'appréciation notamment de la justice, si à un moment donné, cette action est sollicitée. Cela a été le cas, la conclusion est terminée, on peut passer à autre chose.
Donc, on n'a pas le droit de balancer l'argent public pour un partenariat public-privé qui n'engraissera que ceux qui vont exploiter cette infrastructure.
Pour l'instant, sur les 160 km de galeries à creuser, il y a à peu près 25-27 km de creusées. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, là, les gravats qu'on voit là, c'est moins d'un kilomètre de galerie. Donc c'est qu'un échantillon, ce qu'on voit là. Et c'est un échantillon qui est assez déroutant.
Je dirais même esthétiquement, il y a quelque chose d'assez beau. Voilà, on a pris des photos, voilà, quand vous voyez le tunnelier qui avance et qui percute la montagne. Et c'est vraiment absolument remarquable.
Oui, c'est une politique en effet de transport aussi là qui est en jeu avec une majorité, on le disait, de fret qui passe par la route aujourd'hui hein, pour les millions de tonnes de marchandises qui circulent entre France et Italie et très peu encore par le rail. Et alors justement en termes de lignes et précisément de passages possibles transfrontaliers, il y a aussi ce tunnel de Fréjus qui vous concerne là-bas en Maurienne et où sans doute les marchandises et notamment les camions circulent énormément par cette ligne et cette infrastructure existante.
Alors tout à fait, c'est-à-dire que aujourd'hui l'État, je le disais tout à l'heure, était incohérent parce que il souhaite développer soi-disant le fret ferroviaire, mais il double le tunnel routier du Fréjus. Or il faut savoir que le tunnel routier du Fréjus est en déficit important. Ça a coûté 550 millions d'euros de faire un deuxième tube routier pour financer cela, pour compenser cela. Évidemment, il faut beaucoup de camions qui passent sous ces deux tunnels, puisque 80% à peu près des bénéfices de ce tunnel sont dus aux camions. Or, aujourd'hui, le déficit est tel dans le tunnel du Fréjus qu'on est obligé de prendre les bénéfices du tunnel routier du Mont-Blanc pour financer le déficit du tunnel routier du Fréjus. Ça s'appelle le fonds de développement de l'intermodalité pour les transports dans le massif alpin. C'est un fonds de développement qui, en fait, devait servir le FDPITMA, qui devait servir pour favoriser le transport des marchandises vers le rail. Or là, ce fonds ne résout rien puisque ça va de la route vers la route. En quelque sorte, c'est la pollution de la vallée de l'Arve, de Chamonix, qui finance la pollution de la vallée de la Maurienne. Et pour nous, ça, c'est inadmissible parce que ça veut dire que l'État n'a pas de volonté politique de développer le fret ferroviaire.
Alors, petite parenthèse, mais autre aberration, je dirais, locale, c'est en amont du tunnel de Fréjus, il y a une sorte d'autre viaduc qui a été construit, un chantier qui a été réalisé, mais qui n'est pas utilisé, car bien qu'il ne semble pas aux normes, en tout cas possible de pouvoir le pratiquer. Donc vous vous retrouvez aussi là-bas dans ces chantiers en cours, avec déjà un deuxième viaduc qui a été construit et qui n'est pas praticable.
Alors, il est évident qu'on est en train, avec tous ces travaux, on est en train de transformer véritablement la vallée qui vit essentiellement du tourisme en un immense chantier. Je ne suis pas sûr qu'en détruisant les paysages, bien cela attire véritablement les personnes qui voudraient trouver en fait des paysages relativement naturels. Donc, il me semble que ça va à l'encontre véritablement d'une politique globale de l'ensemble de la vallée. C'est sûr que en multipliant les travaux, les conséquences sont gravissimes. J'ajouterais que, par exemple, pour le Lyon-Turin, il y a une conséquence qui est invisible et qui pourtant est bien plus grave que la destruction des forêts ou des prairies ou des paysages en général. C'est qu'en fait, en forant deux tunnels de 57 km, qui n'est pas encore fait, eh bien, les risques et les menaces sont très importants sur la ressource en eau potable. Parce que en creusant la montagne, on assèche des sources, on capte des nappes phréatiques qui sont en fait vidangées et qui empêchent ensuite, évidemment, les villages, les villes et les stations de sport d'hiver, par exemple, de pouvoir posséder en fait de l'eau potable. Donc c'est ça aussi l'enjeu derrière le creusement d'un tunnel dans la vallée pour le Lyon-Turin.
Oui. Alors vous dites que le projet, le chantier n'a pas démarré, mais néanmoins on l'observe là-bas sur la vallée. Hein, ce sont quand même de véritables plébéontes hein, qui sont présentes dans la vallée de par le chantier néanmoins engagé, parce que c'est aujourd'hui moins de 10% de ce tunnel transfrontalier qui a été creusé. Alors est-ce que ce n'est pas trop tard, je dirais, aujourd'hui?
Comprenons-nous bien, pour l'instant, ce ne sont que des travaux préparatoires. Il n'y a aucun travaux définitif qui ont commencé. Il est évident que pour creuser un tunnel de cette taille si gigantesque, il faut évidemment préparer un certain nombre de choses. Il y a déjà des galeries d'accès qui ont été percées, des plateformes qui ont été mises en place pour des chantiers, mais ça reste uniquement cela. Pour l'instant, sauf il y a eu une reconnaissance sur le tracé de 9 km qui ont été faites, mais il n'y a que ça qui a été fait. Et aujourd'hui, il est tout à fait possible, il est même obligatoire d'arrêter ce projet vu les dangers qu'il va amener. Je crois que la population, malheureusement, de la vallée, n'est pas assez au courant de tout ce qui se passe en fait en dessous, parce que c'est un projet souterrain. Mais je veux dire que beaucoup de connaissances ne sont pas mises devant le public, parce que justement, je pense que si tout le monde savait exactement les menaces qui pèsent sur l'environnement en Maurienne, je pense que beaucoup de gens comprendraient qu'il faut absolument stopper ce projet, car encore une fois, d'un point de vue économique, il n'est pas viable, mais d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. C'est vraiment un projet écocide, donc c'est pour ça que justement, toutes les associations écologistes françaises et italiennes sont contre ce projet, y compris des partis politiques comme Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, qui se sont clairement positionnés contre ce projet. Donc on ne peut pas dire d'un projet qui est écologique si les écologistes eux-mêmes pensent qu'il ne l'est pas.
Oui, une catastrophe écologique, et puis au regard de la situation climatique, en effet, ce projet semble complètement aberrant et d'un autre âge, comme vous le disiez. Précisément, quelle est l'adhésion, je dirais, locale, mais peut-être même extérieure à vos territoires, hein. On parlait des élus tout à l'heure, alors je le rappelle, la métropole de Lyon s'est opposée à ce projet, il en est de même pour Grenoble. Qu'est-ce qu'il en est des à la fois élus locaux, mais aussi, je dirais, des habitants, citoyens de Maurienais, finalement?
Alors, en fait, TELT, donc Tunnel Euralpin Lyon-Turin, qui est le promoteur du projet, a mis en place un système corruptif qui s'appelle la mesure grand chantier. C'est-à-dire que toutes les communes de Maurienne, pour obtenir des subventions pour, par exemple, refaire une route, améliorer une école primaire ou des choses comme ça, est obligée de faire une demande de subvention à travers ces mesures grand chantier pour obtenir des subventions qui viennent du département, de l'État ou bien de la région. Et en fait, c'est TELT qui met en place cette mesure grand chantier et qui fait croire, évidemment, à beaucoup de gens que sans cela, les communes ne pourraient pas obtenir de subventions. Ensuite, pour les particuliers, la mesure grand chantier, elle permet de pouvoir obtenir des subventions pour la réhabilitation d'appartements, etc., de maisons, qui pourraient être loués à de futurs ouvriers du chantier. Donc c'est tout ce système-là qui favorise en quelque sorte l'adhésion au projet. Donc c'est compliqué de demander aux gens, voilà, on va vous aider, mais vous ne devez pas dire que vous êtes contre le chantier. Donc il est évident qu'au moins, les TELT achètent le silence des gens face à ce chantier, parce qu'ils y trouvent un intérêt.
Un système bien mis en place, finalement. Alors, vous évoquiez TELT, l'opérateur économique, hein, finalement. Il y a beaucoup d'actions, je dirais, en ce moment, des actions assez régulières. Il y a eu une opération, notamment intervention sur le chantier de Villarodin-Bourget, là, il y a peu, avec la mise en place d'une banderole. Une action sur le siège de TELT, précisément. Et puis, des réunions publiques qui sont nombreuses actuellement sur les départements aussi limitrophes, hein, Isère, Savoie. Un rassemblement populaire attendu sur le parvis de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne le 15 juin prochain. Et puis surtout, cette mobilisation des 17 et 18 juin. Alors peut-être expliquez-nous un petit peu comment se présente et se profile cette mobilisation que vous entendez internationale pour les 17 et 18 juin prochains.
Encore une fois, les 17 et 18 juin, c'est toutes les associations écologistes de France et d'Italie qui appellent à faire vraiment une manifestation festive et internationale, populaire, familiale, pour dénoncer en fait ce projet. Parce que malheureusement, si en Italie, avec les notables italiens qui se battent depuis 30 ans contre ce projet, en Italie, vous allez dans n'importe quelle région d'Italie, tout le monde sait qui sont les notables. Simplement, en France, malheureusement, malgré le combat de Vivre et Agir en Maurienne et d'autres associations, on n'a jamais réussi à véritablement nationaliser en quelque sorte ce débat sur le Lyon-Turin. Donc l'objectif, c'est d'abord évidemment de mobiliser le maximum de personnes contre ce projet et puis surtout de faire connaître à la France entière que ce projet-là coûtera énormément d'argent public et que finalement il sera un déficit énorme pour les finances publiques. Et que d'un point de vue écologique, je pense qu'il est préférable de construire des écoles, de construire des hôpitaux, et donc de favoriser l'argent public nécessaire pour, en quelque sorte, le bien commun, plutôt que de détruire la montagne, de détruire des ressources en eau potable, qui, évidemment, ne permettront plus à la population de pouvoir vivre correctement dans la vallée.
On en a bien compris les raisons et peut-être serait-il possible de nous préciser comment va se passer ce rassemblement. Vous attendez peut-être beaucoup de monde précisément. Alors qu'est-ce qui est prévu en termes de programmation aussi de ce week-end?
Alors on a deux journées. La première journée est une journée, on va dire, militante, avec des prises de parole de toutes les organisations, qu'elles soient associatives, syndicales et politiques. Ils vont prendre la parole pour dénoncer, comme je vous le disais, tout ce projet. Et puis il y aura une manifestation importante sur un parcours déterminé qui va essayer de montrer en quelque sorte aux participants déjà les dégâts avec les travaux préparatoires qu'il y a déjà et qu'il est tout à fait possible donc de stopper véritablement ce projet. Il n'y aura pas d'action violente. L'objectif, c'est véritablement de faire un cortège pacifique et de montrer en fait que c'est la force pacifique et non violente qui peut l'emporter sur la violence en fait des travaux et des promoteurs qui veulent en fait détruire véritablement des paysages montagnards qui finalement permettraient à pas mal de gens de vivre. Et ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée est une journée beaucoup plus informative et communicante, puisque nous avons des tables rondes, des scientifiques qui vont venir démontrer en quelque sorte les problèmes écologiques, les menaces, les risques qu'amène ce projet sur l'eau, l'air et la terre. Ce sont donc nos biens communs. Et puis il y aura un grand rassemblement en fait de tous les comités locaux des soulèvements de la terre qui viennent de toute la France, pour montrer que finalement les soulèvements de la terre ne sont pas prêts d'être dissous, puisque le combat continue au-delà évidemment de ce simple projet de Lyon-Turin, car il y a d'autres combats à mener ailleurs en France, où la destruction de l'environnement est quand même devenue quelque chose de phénoménal par les activités humaines.
Rendez-vous donc le 16, c'est déjà l'accueil, le vendredi, avec déjà des actions et animations prévues, et puis l'ouverture du camp. Mais précisément dans cette vallée de la Maurienne, le rendez-vous est donné à quel niveau de la vallée?
Alors pour l'instant, je ne peux pas donner de lieu précis. Simplement, j'invite le maximum de personnes qui souhaitent évidemment nous aider à défendre encore une fois ces biens communs, venir en Maurienne. Je pense que 3 à 4 jours avant la date fatidique, le lieu précis sera donné.
D'accord, très bien. Je vous remercie.
Je vous en prie.
Merci à vous.
À très bientôt.
Merci, bonne journée et bonne mobilisation pour ce réveil des montagnes attendu 8 juin prochain. Beaucoup.